Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 18, donc le livre de l'Exode, et au chapitre 18, vous savez, le thème de l'étude ce matin, c'est de bonnes structures, mais avec les bonnes personnes. On peut avoir une belle structure, bien mise en place, tout était bien fait, mais après, si les personnes qui sont là, qui gèrent cela, ne fonctionnent pas correctement, c'est comme Dieu a regardé à Adam, et puis il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé Ève, et il propose une institution, l'institution du mariage. Mais ce n'est pas pour cela qu'être marié fait le bonheur. Le mariage, c'est deux personnes qui accordent à Dieu sa juste place dans chacune de leurs vies. Et là, cette relation, ce mariage sera une inspiration pour d'autres. Ensemble, en respectant les règles du mariage, ils pourront réaliser le bonheur. Donc c'est pas le mariage, c'est une bonne chose, c'est bien fait, mais après il faut que les personnes soient à la hauteur pour le faire correctement, sinon ça peut mal se passer. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est plusieurs situations où il y a des bonnes idées qui sont mises en place, mais après si on n'a pas les bonnes personnes, eh bien ça peut tourner mal. Hein. Donc et il faut savoir reconnaître une bonne institution, une bonne structure, une bonne idée, mais en même temps, il faut que les personnes soient à la hauteur de ce qui a été créé. Donc ici, nous allons voir au chapitre 18, nous avons Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient le voir. Il a appris qu'il a entendu de tout ce qui s'est passé en Égypte. Et comme lui, il est dans cette région, donc il vient rattraper Moïse près de Sinaï. Et donc, il passe une journée à observer son gendre, et il voit son activité. Et à la fin de la journée, eh bien, il donne son évaluation. Donc, on commence au verset 13. Donc, Exode 18, verset 13. Et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Il dit, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, mais c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à la destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Voilà, alors, le père, il observe, le beau-père regarde, il voit, et il dit, après une journée, il dit, Moïse, tu vas pas tenir longtemps. Si tout le monde doit faire la queue devant toi, et puis et c'est toi qui traites de toutes les situations, tous les petits cas, toutes les préoccupations de l'un ou de l'autre, les petits problèmes, et tu vas t'épuiser et tu vas les épuiser. Et donc, il propose une solution. Et vous avez vite compris ce qu'il propose. Hein, c'est un terme qu'on connaît très bien, c'est déléguer, déléguer aux autres. Faites participer d'autres personnes. Il dit, choisis des gens qui seront responsables pour 1000, des gens responsables pour 100 personnes, pour 50, pour 10. Et seulement, c'est les grandes affaires qui viendront à toi. Et tout pourra se régler beaucoup plus facilement de cette manière-là. Et par ce moyen-là, bien, il pourra accomplir sa tâche sans se détruire lui-même, sans s'épuiser lui-même. Je suppose que le burn-out existait à l'époque, hein, pouvait exister. Et il veut lui éviter cela. Et puis aussi, c'est surtout aussi pas épuisé, frustré à la congrégation. Hein, parce qu'à force de chaque fois faire la queue et attendre leur tour et tout ça, ben c'est un peu comme la justice aujourd'hui. Hein, les cas sont remis à combien de mois et on doit attendre et les situations attendent. Et il dit, déléguer le travail. Et déléguer, c'est une bonne chose en soi. Mais la question, c'est à qui faut-il déléguer ? Et faut-il déléguer pour déléguer ? Déléguer, c'est une bonne chose, donc on délègue. Et puis en avant, on commence à déléguer, toi tu fais ça. Puis... Est-ce que c'est sûr, même si c'est une bonne idée, est-ce que c'est sûr que ça marcherait ? Ou est-ce que faut-il déléguer avec beaucoup de sagesse ? Jéthro, il lui dit de faire intervenir d'autres personnes, de répartir la tâche, mais il lui donne quand même des conseils sur les qualités des personnes à qui il faut confier la charge, les charges. Regardez au verset 21, il dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. » Ça c'est une première, des hommes capables et craignant Dieu. Et deuxièmement, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Mais ça paraît tout à fait raisonnable et c'est pas compliqué. Il dit voilà, choisis des hommes capables et craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Et ces hommes, eh bien, qui remplissent ces conditions, on leur distribue les tâches, on répartit les tâches, et remarquez qu'il ne fait pas la différence. Il ne dit pas, pour ceux qui sont chefs de 1000, alors là, il faut être plus exigeant que pour ceux qui sont chefs de 100, plus exigeant que ceux qui sont de 50, et puis les 10, alors là, c'est n'importe qui. Non, non, c'est exactement les mêmes conditions pour tous. Que tu sois un chef de 10 ou que tu sois un chef de 1000, c'est exactement pareil. Et c'est un principe à retenir, parce que souvent chez les humains, on me dit ouais, ben ça c'est une petite responsabilité, donc donne ça à n'importe qui, tiens, donne-le à un tel, comme ça il sera content. Et c'est comme ça que les choses se font dans le monde. Mais chez Dieu, toute responsabilité, toute tâche exige la même rigueur. Tout doit être bien fait chez Dieu. Hein, et donc c'est très important de recruter cela. Et surtout, il ne faut pas se servir de ce principe de déléguer les tâches pour essayer de recruter du monde. On dit, bon, ben lui, on ne le voit pas souvent, donc on va lui donner cette tâche, comme ça on le verra plus souvent. Ce n'est pas une méthode de fidéliser les gens. C'est parce que, regardez un peu comment Moïse le fait. Hein, il nous dit au verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Mais lorsqu'on regarde de plus près, il n'a pas fait tout. Il a cru tout faire. Mais il n'a pas tout fait. Et il va y avoir beaucoup d'ennuis. Par exemple, quand au chapitre 32, quand on arrive au chapitre 32, Moïse est absent et il monte sur la montagne, il est absent depuis 40 jours. Et regardez, lisons ensemble au verset 1 jusqu'au verset 6 d'Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre dans la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, allons. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent, écoutez ça, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On attribue à ce veau d'or l'œuvre de Dieu. Le lendemain, attendez, non, j'ai sauté un verset. Verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Vous vous rendez compte? En l'honneur de l'Éternel devant un veau d'or. Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Cette idée, c'est de débauche. Si il y avait eu des gens choisis, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10 qui étaient responsables, qui craignaient Dieu. Mais où sont ces hommes? Quand quelqu'un propose, il dit, mais pourquoi on ne se fait pas un Dieu? Puisque Moïse, on ne sait pas où il est passé, on ne l'a pas vu depuis 40 jours, un mois et quelques, c'est tout. Et déjà, on est prêt à l'oublier et passer à autre chose et se créer un veau et qu'on va appeler, finalement, on va lui attribuer le titre de Jéhovah. Voici l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tout d'un coup, on enlève tout à Dieu et on le donne là et puis on fait la fête et on fait ce qu'on a envie de faire. Où sont ces hommes, ces chefs, ces responsables, ces hommes capables qui étaient là pour ramener le peuple à la crainte de Dieu. Le peuple, en fait, avait choisi des hommes qui leur plaisaient. Donc finalement, c'est des gens qui n'étaient pas meilleurs qu'eux et qui ne pouvaient pas, qui étaient incapables de les tirer vers le haut. Le peuple avait choisi des chefs qui étaient comme eux et non des hommes qui allait les tirer vers le haut. 32, verset 25, Moïse descend de la montagne, parce que Dieu lui dit, il y a des problèmes qui se passent en bas, là. Et Moïse descend, il vit le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron avait laissé dans ce désordre, l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi les ennemis. Il n'y avait personne, même pas Aaron, pour leur dire, mais ça ne va pas, non, mais restons fidèles, Dieu. Il a pris tout ce temps pour nous sortir de l'Égypte. Il nous a amenés là, il nous pourvoit. En plus, la manne que vous avez ramassée ce matin, c'est lui qui l'envoie. Il n'y a pas quelqu'un pour les rattraper. pour les arrêter dans leurs pensées, dans toute cette population. Vous savez, en fait, c'est ça qui arrive. Tout ce que les hommes font, hein, c'est la... on aime beaucoup parler de la démocratie, c'est le peuple qui choisit. Oui, mais si le peuple choisit ce qu'il veut plutôt que de choisir ce dont il a besoin, ben c'est la fin. Et ça arrive dans notre société, ça arrive dans nos écoles, ça arrive dans les syndicats, ça arrive partout, à tous les niveaux. Les hommes sont tellement égoïstes qu'ils choisissent ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent. Je veux quelqu'un qui pense comme moi. Et bien après on se demande pourquoi ça ne devient pas meilleur. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un qui va nous tirer vers le haut? Et dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. Ou que ce soit même dans le mariage. Cherche quelqu'un qui va te tirer vers le haut, pas quelqu'un qui va te tirer vers le bas. Et les bonnes idées, eh bien, sont corrompues, sont détruites, sont neutralisées. Pourquoi? Parce que l'homme fait selon son cœur, pas selon dont il a besoin. Jéthro avait bien parlé, il avait dit, prends des hommes capables, mais qui craignent Dieu. Et ils ont choisi des hommes capables, mais qui craignaient la population. Et regardez dans Deutéronome chapitre 1, donc un peu plus loin, Deutéronome chapitre 1, donc 40 ans plus tard, Moïse va faire référence à cela, et regardez, et lui va se souvenir comment ça s'était passé. Donc Deutéronome chapitre 1, et les versets 13 à 18. Donc il est en train de leur rappeler ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. Et en fait, au verset 12, il dit « Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ?» C'était le problème. Et le résultat, la proposition, c'était « Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. » Et vous me répondîtes en disant « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. » Il dit, ben j'ai fait. La charge était trop lourde, et donc je vous ai dit, ben prenons des gens qui vont aider, qui vont diriger, mais le résultat, c'est que le fait qu'ils craignent Dieu n'était pas souligné. C'est que choisissez des gens, deux chez parmi vous, des gens que vous pourrez suivre, des gens que vous pourrez écouter, des gens qui vous plairont. Prenez ces hommes. Et c'est ainsi qu'ils s'étaient organisés. Et pendant les 40 ans, et vous lisez le récit, il n'y a que des problèmes, que des situations, que des murmures, que de la désobéissance. Et Dieu, il a du mal à conduire ce peuple. Pourquoi? Parce que l'idée était bonne, mais on a mis n'importe qui. Et l'idée de Jéthro était bonne, mais mal appliquée. Et ça a créé une situation avec laquelle Moïse a dû traiter pendant 40 ans, et Dieu aussi. Et combien de rébellions, et chaque fois que le peuple ne suivait pas, il n'y avait pas quelqu'un pour les rattraper. La même situation, on retrouve dans le choix des espions. Quand ils arrivent, finalement, au bout de certains temps, ils arrivent à frontière du pays promis. Et là, encore une fois, il y a quelqu'un qui a une bonne idée. Regardez dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Vous êtes en Exode, Lévitique, Nombre. Nombre chapitre 13. L'idée, elle est bonne parce qu'on va envoyer des espions. On les voit les envoyer dans le pays pour voir la nature du pays, voir ce qui les attend. pour aller voir ce pays que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance. Et donc, je lis les premiers versets, il dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran jusqu'à d'après l'ordre de l'Éternel, et tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Je ne vais pas lire, mais pour chaque tribu, il y avait un responsable qui a été choisi par la tribu. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous la connaissez peut-être, mais c'est que au verset 25, regardez comment ça se termine. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le pays de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Un peu plus haut, eh bien, ils nous parlent de cette grappe de raisin qu'ils ont ramenée d'Eshkol, qui était ça a pris deux hommes pour porter la grappe de raisin. Et donc, en plus, des grenades, des figues et tout cela. Et donc, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. C'était des géants. Hein. Les Amalécites habitent des contrées du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, donc, qui était l'un de ces hommes, qui était de la tribu de Juda, hein, qui était représentant de la tribu de Juda, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce pays, peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant le peuple, les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. » Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Hein, c'est un peu exagéré quand même. Mais vous rendez compte le problème ? C'est que parce qu'on avait choisi une personne de chaque tribu, mais parce qu'on n'a pas choisi un homme qui avait confiance en Dieu et qui était convaincu que Dieu pouvait réaliser ses projets, eh bien, sur les 12, il y en a 10 qui n'ont aucune confiance. Il n'y a que Caleb et Josué qui, eux, disent « Mais non, on peut aller, Dieu. Si Dieu nous envoie, il nous a amenés jusque-là, il ira jusqu'au bout. » L'idée était bonne, ils ont été voir le pays, ils ont ramené du fruit, ils ont dit « mais c'est réellement un pays où coule le lait et le miel. Par rapport à ce désert, ce afro-désert, c'est merveilleux. » Mais il y en avait 10 qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas foi en Dieu. Et ce qu'ils ont fait, eh bien ils ont détourné tout le monde. Et c'est pas seulement qu'ils ne sont pas rentrés, mais ils ne sont jamais rentrés. Toute cette génération ne sont jamais rentrés en Canaan. Pourquoi ? Parce qu'on s'était choisi des chefs qui n'étaient pas dignes de la tâche, qui n'avaient pas foi. Et donc, maintenant, toute une génération ne pourra pas entrer dans le pays que Dieu a préparé. Et bon, les pauvres Caleb et Josué, ben, et eux, ils devront attendre 40 ans avant de pouvoir rentrer. Rien ne les empêchait d'entrer, mais bon, à cause des autres. Mais des fois, quand on manque de foi, c'est pas seulement qu'on se fait du tort, mais on fait du tort parfois à d'autres. Mais le problème, vous avez remarqué, c'est Dieu qui a dit, faites-le, envoyez. Allez-y, c'est une bonne chose. C'est bien d'envoyer. Plus tard, Josué enverra aussi des espions. Et ça les encouragera. Mais c'est des hommes qu'il a choisis. Qu'il aura choisi pour eux. Et eux ramèneront un rapport qui encouragera tout le monde. Vous savez, on peut avoir des bonnes idées. Mais si on choisit bien mal les hommes, eh bien, on n'a rien. Et vous savez, l'idée était bonne, elle avait été approuvée par Dieu, même les hommes l'ont trouvée bonne, mais ce n'est pas des hommes de foi comme Caleb et Josué. Et tout le monde a été empêché d'y aller. Ce que Dieu avait promis, eh ben, n'a pas pu se réaliser. Vous savez, la même situation se développe avec une personne qui se marie avec un partenaire qui n'est pas chrétien. Hein. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais le mariage, finalement, il peut être du n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on a mal choisi. Le mariage est une bonne chose. Mais si on choisit quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, qui ne veut pas vivre Dieu, ou qui ne va pas dans le même sens que nous, eh ben, on ne peut pas avoir un beau mariage. Et c'est pas seulement, et je profite de l'occasion pour dire que c'est pas juste quand on dit oui, mais moi j'ai marié un chrétien, il était à l'église, je l'ai rencontré à l'église. Ben, ça ne veut rien dire, ça ne change rien du tout. C'est pas parce qu'on le rencontre à l'église que c'est très bien. Là, tous ces hommes qui ont été choisis, tous ces chefs, c'était des enfants d'Israël, hein, c'était pas, ils n'ont pas été chercher des Ismaélites ou quelque chose comme ça. C'était des gens qui étaient là. C'est pas parce qu'on est dans l'Église, qu'on est un homme de foi. Hein? Et il faut... Donc il ne suffit pas de se marier avec quelqu'un que j'ai rencontré à l'Église. Il y en a combien ont rencontré leur mari à l'Église et puis finalement, il était à l'Église juste le temps du mariage. Ou bien il était dans l'Église juste quelques années après, puis après il est parti. Et il faut que ça soit une personne de foi. Si vous avez l'intention de vivre par la foi, de compter sur Dieu, ben il faut que ça soit quelqu'un qui a aussi ce désir. Ça prend d'eux. Quel sera le signe qui indiquera que c'est une personne de foi ? Comment je vais savoir si c'est quelqu'un à qui il va marcher ? Eh bien, je vais vous donner un petit secret. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Hein, si vous êtes déjà mariés, on travaille et là on prie pour le partenaire qu'il soit sauvé. Si vous n'êtes pas encore marié, eh bien, quand vous voyez quelqu'un, attendez de voir si lui s'intéresse à voir si vous êtes une personne de foi. Parce que si lui ne se pose pas la question, c'est qu'il ne connaît rien du tout. Si lui commence à dire, mais toi, par rapport au Seigneur, comment... S'il commence à poser des questions, il dit, mais tu, ta vie de prière, et puis la Bible, comment tu la lis si lui commence à poser, c'est qu'il cherche quelqu'un qui est fidèle. Et puis vous aussi, hein, lui va se rendre compte très vite, parce que vous avez commencé à poser ces questions personnelles, oui, mais quand on est marié, ça devient très personnel, hein, ça devient intime. Et vous commencez à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as lu ce matin ? Lu ce matin ? Dimanche, j'étais à l'église. Hein. Ah oui, bon, oui, non, bien sûr, heureusement. Hein. Tant mieux pour toi. Mais tu, il y a une petite lampe là qui commence à clignoter hein, sur le tableau de bord. Bien attention. Vous savez, je dis ça, mais c'est sérieux. Et combien se font piéger là-dedans ? Parce que le mariage, il n'y a rien qui garantit. Quand on se marie, c'est des êtres humains. Et les êtres humains, vous savez, on n'est jamais sûr à 100%. Je dis à ma femme, je dis, écoute, tu sais, tu as pris un gros risque avec moi. parce que je suis un homme. Et il dit, oui, je sais, mais je t'ai observé. Et puis moi aussi, je l'ai observé. Et après, c'est de l'entretien. Mais déjà, il faut partir sur de bonnes bases, sinon il n'y a aucune chance. Je ne veux pas dire que parfois le Seigneur, dans sa grâce, eh bien, le partenaire vient au Seigneur et puis aime le Seigneur et que ça marche très bien. Et heureusement, on compte. Vous savez, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, c'est grave. Mais il n'y a rien qui garantit. La grâce, ce n'est pas quelque chose de garanti. C'est quelque chose qui vient de la générosité. Mais ce n'est pas garanti. Vous dites, ouais, mais je lui parlerai, il viendra au Seigneur. Parce que c'est un gars qui est vraiment bien. Tu sais, même s'il est au Seigneur, même si tu l'as trouvé à l'église, il n'y a rien qui garantit. Alors essaye de cumuler tes garanties. Et pareillement, vous savez, quand l'église aussi, hein, c'est un truc, c'est quelque chose, c'est une institution qui rassemble les êtres humains. Et quand on veut choisir des responsables d'église, comment est-ce qu'on les choisit? Ah, celui-là, il est sympa. Celui-là, il a des moyens, ça pourrait servir dans l'église. Ah, il a des talents, lui, il sait bien parler, il faut plus que le don du tchatch, comme dit quelqu'un. Vous savez, il faut que ce soit des hommes de foi qui aiment le Seigneur et qui sauront nous conduire où nous devons aller. Et pas des gens qui vont dire « Ah bah t'es gentil, c'est bien, je t'aime bien, t'es gentil, très bien, c'est pas de problème, reste comme tu es. Bah, » Avec ça, on va aller où? C'est pas la peine de venir à l'église et c'est pour rester comme je suis. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui va m'encourager, me motiver pour aller plus loin avec le Seigneur. Un plus grand attachement avec le Seigneur, plus près du Seigneur. On veut quelqu'un qui nous tire vers le haut. Ne choisissons pas des hommes qui nous approuvent, mais choisissons des personnes qui vont nous guider vers là où on veut aller, on aimerait aller. L'Église, c'est une bonne chose. Jésus a créé l'Église, l'assemblée des croyants. Mais vous savez, mais si on prend des responsables, on choisit mal nos responsables, eh bien, on a de gros problèmes. Dans un mariage, le mariage est une bonne chose, mais on ne joigne pas des bonnes personnes, ça, c'est une souffrance. Et donc, on ne rejette pas l'institution, je ne rejette pas ce que Dieu a mis en structure, mais après, il faut beaucoup de sagesse dans la manière dont nous choisissons les responsables. Et pour cela, regardons dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, justement, l'apôtre Paul est en train de parler à ce jeune pasteur Timothée, et il va lui dire, il dit, comment choisir des responsables. Et je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas marqué, mais vous regardez de très près, hein, vous vérifiez avec moi, mais regardez, il n'a pas dit qu'il faut que ce soit des gens qui ont fait l'Institut biblique. Hein. Il dit parce que, Timothée, chapitre 3, parce que c'est sérieux. Déjà au verset 14, hein, je lis les versets 14 et 15, il dit « Je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il a dit « C'est sérieux. » L'église, la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas une église du Dieu vivant, c'est l'église du Dieu vivant. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Dans les gens de l'époque, ils comprenaient bien ce que c'était parce qu'ils connaissaient l'architecture grecque et l'importance des colonnes. Hein, tout était là. Si vous souvenez de l'histoire de Samson, vous savez, hein, les deux colonnes, là, il a pris ça, puis tout est descendu. L'importance d'une colonne. Eh bien, c'est l'Église, c'est l'appui de la vérité. Et donc c'est sérieux. Et c'est pas une question, c'est pas une petite association comme les associations de bowling ou de tricotage ou de randonnée. C'est l'Église de Dieu. Et donc je vais lire à partir du verset 2. Donc d'abord il va nous donner les qualités de celui qui peut être évêque. Évêque, pasteur, ancien, ce sont des termes qui représentent les mêmes. C'est des aspects différents du même rôle. Et puis ensuite, à partir du verset 8, il parlera des diacres. Je lis à partir du verset 2. Il dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, c'est-à-dire capable d'enseigner. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Si tu ne sais pas diriger ta maison, comment est-ce que tu vas diriger la maison d'un autre ? Verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous avez remarqué que pour le diacre, c'est à peu près la même chose, la seule différence étant, seule grande différence, c'est le capable d'enseigner. Hein. Il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloigné de la duplicité, des excès du vin, d'un grain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, premièrement, je fais remarquer là au verset 6, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Et ce n'est pas parce qu'il veut faire des distinctions, voilà, il y a les nouveaux convertis. Catégorie 1, puis après il y a les saints. Non, c'est pas ça. C'est nouveau converti dans le sens, c'est pour le protéger. Parce que si tout d'un coup il se retrouve avec des grandes responsabilités, et puis tout d'un coup ça lui monte à la tête, et il n'est pas assez mature encore pour pouvoir gérer cette responsabilité, le fait d'avoir cette responsabilité. Et quand il dit nouveau converti, bon, ça veut dire déjà. Ça veut dire qu'il est récemment converti, donc il est encore en train d'apprendre. Mais vous savez, il y en a qui sont peut-être convertis depuis longtemps, mais il n'y a jamais eu de croissance. Hein, c'est comme le gars qui... ils disent, « Ah, ça fait 15 ans que je suis à l'école, mais toujours en CP. » Ah, c'est pas la même chose. De nos jours, c'est presque impossible de faire ça, parce qu'on vous fait avancer, hein, jusqu'au bac. Parce que ça coûte cher de vous garder. Mais dans la vie chrétienne, des fois, en tant qu'il y en a qui... ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, mais finalement, ils ne sont jamais avancés. Hein, ils sont toujours au biberon, au lait. Et voilà, tu ne compliques pas les choses. Hein, tu me perds, là. Et oui, mais attends, ça fait... Mais, donc, c'est quelqu'un qui n'a pas la maturité, hein, nouveau converti ou celui qui... Ou ça arrive aussi, hein, et ce n'est pas un jugement, mais il y en a qui aussi, peut-être, il s'est converti au Seigneur, puis après il s'est éloigné du Seigneur, et après il revient. Ah ben, il revient, bon, c'est vrai que peut-être ça fait 25 ans depuis qu'il s'est converti, mais entre-temps, il y a eu 15 ans de perdu. Hein, donc, on reprend. Hein, donc, c'est une question de maturité dans le Seigneur. Je fais remarquer aussi que ce sont des qualités, pas qu'il développe une fois qu'il a été choisi, mais c'est des qualités qu'il a déjà avant d'avoir la responsabilité. Il dit par exemple, il dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin? Donc ça veut dire qu'il ne prend pas encore soin de la maison de Dieu. Il dit, mais s'il ne sait pas prendre soin de sa maison, ne lui confie pas la maison de Dieu. S'il ne sait pas gérer ses finances, comment va-t-il gérer les finances de Dieu? S'il ne sait pas se conduire avec amour et affection avec sa propre famille, comment va-t-il le faire avec les enfants de Dieu? Hein, il dit, quand vous choisissez les responsables, mais choisissez pas quelqu'un qui va vous dire, ma, t'es gentil, t'es bien, je t'aime bien, c'est bien, t'en fais pas, y a pas de problème, je dis rien. Non, non. Veut quelqu'un qui va nous aider, qui va nous tirer vers le haut. Et donc, il dit, c'est de parmi ceux qui déjà remplissent ces conditions qu'on choisit les responsables. Et remarquez que c'est à peu près, c'est les mêmes conditions, ce sont des frères et sœurs spirituels, que ce soit pour être évêque, que ce soit pour être diacre, que ce soit pour n'importe quelle responsabilité. Hein, tout à l'heure, vous vous rappelez, quand on a dit que soit chef de 1000, soit de 100, chef de 50, chef de 10, c'est pareil. Et quelles que soient nos responsabilités, tu es moniteur de deux enfants ou tu es prédicateur de 125 000, c'est pareil. Ce sont les mêmes conditions. Remarquez que je prends le cas de l'évêque là, et du verset 2, il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. C'est pas évident, hein? Irréprochable. C'est déjà, ça élimine du monde. Et après, et il termine au verset 7, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, c'est-à-dire du dehors de l'Église. Des gens du monde. C'est pas seulement, bah, l'Église, j'ai une belle image et tout ça. Hein, comme on parlait une fois d'un responsable d'Église, les enfants disaient, ouais, à l'Église, notre Père, ah, c'est un prophète, c'est un ange. Mais à la maison, aïe, aïe, aïe. Ben, c'est un mauvais témoignage. Si tu peux pas l'être, tu n'as pas un bon témoignage de la part de ta famille, tu n'as pas un bon témoignage parmi des collègues de travail, des voisins, tout cela, tu n'as rien à faire avec les responsabilités dans l'Église. Parce que sinon, comment on va faire? Comment? Hein, parce que l'Église, c'est pas un lieu où on ferme les portes et puis il n'y a que les gens d'ici. Hein. C'est une porte, c'est ouvert. Les gens de l'extérieur, ils savent qu'ils rentrent. Et souvent, ils disent vrai quand ils disent, ah, oh, là-bas, c'est que des hypocrites, c'est du n'importe quoi. Et parfois ils disent vrai, ils sont pas si bêtes les gens du monde. Ils ne font pas toujours ce qu'ils savent, mais ils voient souvent clair. Hein. J'ai déjà eu des gens qui, tout nouveau dans le Seigneur, ils me disent, Pasteur, maintenant qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? Je lui dis, écoute, si tu veux, rien que pour commencer, arrête et réfléchis. Qu'est-ce que tu crois qu'un chrétien devrait faire, comment il devrait se comporter. Déjà, commence avec ça. Si tu ne sais pas, tu n'as pas d'idée, eh ben, va trouver ton voisin et tu lui dis, écoute, un chrétien, ça devrait être comment? Et tu commences à être comme il te dit. Parce que trop souvent dans les églises, on excuse trop de choses entre nous. Comme ça, on est tous très bien. Hein? À partir du moment qu'on est tous mauvais, Hein, c'est comme dans une classe où ils sont tous des mauvais élèves. Ils sont contents, ils sont heureux. Et ils n'aiment pas quand il y a un ou deux qui se démarquent et qui sont de bons élèves. Parce qu'après, eux, ils paraissent mauvais. Et donc, ils sont jaloux, ils ont dit, cela, ils disent, ouais, copain du maître, professeur, tout ça. Vous connaissez ça, hein, vous avez déjà vu. Bon, peut-être qu'il n'y a que moi, en Algérie, qui ai eu ça. Mais, vous savez, mais c'est les mêmes gens, hein, à l'école, c'est les mêmes gens qui sont dans l'église, c'est la même nature humaine. Mais ce qu'on veut, c'est, le Seigneur dit, choisissez, soyez responsables, matures. Choisis ceux qui vont vous tirer vers le haut, vous encourager. Il dit, ouais, quand je suis avec un tel, il y a plein de choses que je ne fais pas, je n'ose pas faire. Je suis avec lui, j'arrive à vivre. Mais si je sors avec l'autre, là, bon, il m'entraîne à tout. Ah, ben alors, fais ton choix. Avec qui veux-tu fréquenter? C'est vrai pour la vie dans la société, mais c'est aussi vrai pour la vie spirituelle. Et vous savez, quelquun m'a dit, bon, il n'y a rien d'absolu dans la vie. Je dis, ah bon? C'est sûr? Il dit, oui, il n'y a rien d'absolu. Il savait que je parlais de la Bible un peu, donc il dit, non, il n'y a rien d'absolu dans la vie. J'ai dit, alors, comment ça se fait que les proverbes, ça existe? Dans toutes les sociétés du monde, il y a des proverbes. Et les proverbes, c'est basé sur quelque chose qui se vérifie régulièrement. Il m'a dit, oh, tu as une idée là. Et oui, mais il y a un proverbe qui dit « Ceux qui volent ensemble se ressemblent. Hein. » Et je choisis à qui je veux fréquenter. Hein. Et lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, et au verset 2. Et voilà la mission du pasteur dans l'église, et c'est ce qu'on veut accomplir. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. C'est encore Paul qui parle à Timothée, et il dit, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. » Voilà le principe. Ce que tu as, tu le transmets à un autre, qui lui le vit et qui le transmet à un autre. Et c'est ça la responsabilité, c'est pas ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons devenir qui importe. Et le Seigneur a des choses, il dit confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et pour qu'il l'enseigne, bien, il faut qu'il le vive, il faut qu'il le pratique. La mission du pasteur, c'est de former des hommes pour les responsabilités. Parce qu'on ne va pas prendre, on va dire, ouais, bon, bah, écoute, on choisit le meilleur qu'on a, hein. Bon, on va regarder comme ça. Non, non, bah, si on n'a pas ce qu'il faut, on attend. Et on forme jusqu'à ce qu'on a ce qu'il nous faut pour que cette église soit à la hauteur de ce que le Seigneur recherche. Et celui qui croit être à la hauteur de la charge se disqualifie par le simple fait d'y le penser. Hein. C'est dire, ouais, mais moi, je peux être pasteur, hein. Je parle aussi bien que lui, hein. Moi j'ai 15 ans, je connais le langage, je connais tous les cantiques des ailes de la foi, bon, moi je peux être pasteur. Eh bien, avec une telle attitude, il vaut mieux que tu ne sois jamais. Parce que, comme par hasard, l'humilité, ça va avec les responsabilités. Personne n'est digne du service dans l'Église. Il y a ceux qui y aspirent. Hein, c'est ça qu'il disait au début, il dit, 1 Timothée 3, verset 1, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il aspire, c'est-à-dire il veut arriver, il veut croître dans la foi et dans la connaissance de Dieu pour pouvoir l'être. Et c'est bon d'y aspirer. Après, qu'on le devienne ou pas, peu importe, c'est une bonne chose de vouloir être mature. Et quand il l'aspire, c'est en cultivant une relation plus étroite, de plus en plus étroite avec le Seigneur, Hein, c'est pas en disant, bah, je vais voir comment, bon, je crois que celui-là, il va déménager, donc il y aura une place libérée. C'est, oui, dans la fonction publique, ça marche comme ça. Mais pas dans l'Église. Si on n'a pas ce qu'il faut, on laisse la place vide. Il vaut mieux une place vide que mal remplie. Les qualités requises sont les mêmes. On dit que ce soit chef de famille, chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Hein, donc, que ce soit pour être moniteur, que ce soit pour être celui qui ouvre la porte, celui qui plie les traités, tout est l'œuvre de Dieu et digne de serviteur fidèle. Vous savez, si je veux avoir des responsabilités, il faut apprendre à suivre afin de savoir conduire. Il faut apprendre, il faut obéir pour pouvoir exhorter. Il faut pouvoir apprendre pour pouvoir enseigner. Il faut se taire pour pouvoir parler. Il faut apprendre à porter les charges des uns et des autres pour pouvoir encourager. Il faut apprendre à écouter pour pouvoir prier. Il faut apprendre à être le serviteur de tous pour être le premier. C'est Jésus qui dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, c'est le serviteur de tous. Et Jésus lui-même l'a fait, il l'a démontré, il a dit, vous voyez, vous m'appelez maître et seigneur. Et eh bien, c'est moi qui viens de vous laver les pieds. Faites pareil. Et c'est là, et nous devons, et je reviens à ma pensée, mais il n'y a qu'une seule pensée très simple pour ce matin, c'est si nous voulons que ces idées du Seigneur, ces structures que le Seigneur nous donne, que ce soit le mariage, que ce soit la vie d'église, eh bien, c'est pas juste une question, c'est une question de choisir les gens qui y interviennent. Et ça peut être une très bonne chose. Mais si on ne prend pas au sérieux, on met du n'importe quoi, on aura du n'importe quoi. Lisez l'histoire et les problèmes que Moïse a eu avec les enfants d'Israël pendant 40 ans. Et malheureusement, c'est que ça se reproduit dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de mariages. Mais que le Seigneur nous aide à prendre sérieusement et prendre sérieusement ce que le Seigneur nous a donné. S'il nous a donné cette structure et cette institution que le mariage et que l'Église, eh bien, prenons ça sérieusement dans la prière et que le Seigneur nous aide et que chacun se regarde soi-même et dit, Seigneur, d'abord, donne-moi la sagesse pour reconnaître où je suis, du point de vue spirituel, je sois honnête avec moi-même, où je suis, et maintenant je veux aspirer à croître, et je veux être disponible pour toi. Et le Seigneur pourra faire une belle chose parmi nous. Bien sûr, nous aurons tous besoin que le Seigneur nous pardonne. Ouais, on a tous, hein, on n'est pas parfait, on a besoin du pardon de Dieu, on a besoin du pardon des uns et des autres. Mais encourageons-nous à lever la barre. Hein. On ne baisse pas la barre pour paraître. Hein, on ne baisse pas le niveau du bac pour qu'il y ait plus de bacheliers. On travaille plus avec ceux qui sont en terminale pour qu'il y ait plus de bacheliers. Et c'est ça qu'on veut dans l'Église de Jésus-Christ. Prions. Que chacun prenne le temps de prier déjà dans son cœur, entre lui, le Seigneur, sa partie. Et puis après, je prierai.